France Inter. Les admirations littéraires de
François Sureau. Je suis Guillaume Apollinaire. Dit d'un nom slave pour vrai nom, ma vie est triste tout entière. Un écho répond toujours non lorsque je dis une prière. Guillaume Apollinaire ne se laisse pas saisir autrement que dans l'amitié, et je sais que nombreux parmi ceux qui nous écoutent sont ses amis. En lisant Alcool, les poèmes à Lou, l'enchanteur pourrissant, le guetteur mélancolique, nous avons bu tous ensemble à une source qui est celle de la joie et de la difficulté d'être, du souvenir et d'une drôle de forme d'espérance. Cette sensation d'avoir un ami, presque un frère, a pu nous voiler celui qu'il a été et qui ne se laisse pas facilement saisir. D'un côté, le soldat amoureux de la douce France, et Dieu sait si Breton ou Aragon lui ont reproché ses poèmes de guerre. De l'autre, le Dreyfusard, l'anarchiste des mamelles de Tirésias, l'ami sinon de la cause homosexuelle en tant que telle, du moins de cette manière d'être, le défenseur du cubisme, le féministe, écrivant sous un pseudonyme de femme. Nous autres Français, nous sommes souvent binaires, et cette caractéristique est étrangère à Guillaume Apollinaire. D'un côté, pornographe talentueux, de l'autre, catholique enfantin. D'un côté, sans aucun préjugé social, et de l'autre, aimant à se mettre en habit pour aller à l'opéra. D'un côté, absolument solitaire, de l'autre, rêvant d'un phalanstère ou écrire tous ensemble. D'un côté, décrivant comme personne les horreurs de la guerre, et de l'autre, plaisantant. J'ai tiré sur le boyau Nietzsche, j'ai tiré sur le boyau Goethe, décidément je ne respecte aucune gloire. Il a aimé l'Allemagne, le monde germanique, et n'est jamais revenu sur ce sentiment. Il a voulu rejoindre surtout cette fraternité mystérieuse des combattants, devenue après l'armistice une nation dans l'autre, à jamais étrangère, lui qui avait tant désiré n'être plus un étranger. On a fait d'Apollinaire, contre toute l'expérience de sa vie, un exemple de naturalisation heureuse, et la bureaucratie donne à présent son nom. En tête de ces listes d'étrangers méritants qu'on propose en exemple aux candidats à la nationalité. Mais Apollinaire reste étranger à l'esprit français parce qu'il ne choisit pas. Il s'est fait un pays mental de tous les compartiments de l'Europe où il a vécu, c'est-à-dire aimé et souffert, Stavelo, Prague, Le Rhin, Londres, et même la tranchée de Tavannes. Et je suis heureux qu'on n'ait jamais songé à le transporter dans ce temple monstrueux de la réclame politique qu'est le Panthéon. De son vrai nom, Wilhelm Albert Wlodimirz Apollinaris de Vas-Krostrowitzki, appartenant par sa mère à une vieille famille de la petite noblesse polonaise, Apollinaire est né en 1880 à Rome. C'était un enfant naturel. Et l'on a souvent daubé sur l'identité du père, officier italien ou évêque romain. Sa mère menait une vie franchement dissolue, ce qui a émaillé la jeunesse de Guillaume de nombreux déménagements à la cloche de bois, le plus célèbre étant celui de Stavelo en Belgique, où elle a disparu en pleine nuit en laissant ses enfants, seuls, dans un hôtel qu'elle ne pouvait pas payer. Et eux non plus. Les autorités de Stavelo n'ont pas été très compréhensives, ce qui n'en rend que plus savoureuse l'existence actuelle d'un musée Apollinaire à Stavelo. Ainsi va la vie des petites villes assoiffées de publicité. Après avoir étudié à Nice, Apollinaire s'installe à Paris en 1900. Il écrit dans les journaux, puis il est engagé comme précepteur au service d'une famille allemande et tombe en vain amoureux de l'institutrice anglaise de cette famille, Annie Pleyden. Il voyage avec eux en Allemagne et plus à l'est, c'est le moment des Rhénan et de la chanson du mal-aimé.
Ressemblait à mon amour, vint à ma rencontre, et le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux de honte.
En 1907, il rencontre Marie Laurencin et c'est le début d'une grande et triste histoire d'amour. Il commence à vivre de sa plume et se lie d'amitié avec Picasso, avec Derain, avec le douanier Rousseau. En 1911, on l'accuse du vol de la Joconde au musée du Louvre. Picasso le lâche et il s'en faut de peu que le préfet ne prenne à son encontre ce qu'on appellerait aujourd'hui une OQTF. En 1912, il lance la revue Les Soirées de Paris avec ses amis René Dalyse et André Salmon. En 1913, les éditions du Mercure de France éditent Alcool, et Paul Léoto, qui y travaillait, a laissé des souvenirs amusants sur l'erreur à la suite de laquelle la ponctuation en a disparu. Au moment de la Joconde, le juge, le préfet, la presse n'avaient pas été tendres avec ce métèque. On se souvient que Cravant, qui le haïssait, ne l'appelait que le juif Apollinaire. Vient la guerre de 14. Il veut s'engager, mais il n'y parvient pas, n'étant pas de nationalité française, et contrairement à Sandrard, ne voulant pas signer à la Légion étrangère.
Si je mourais là-bas, sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, ô loup, ma bien-aimée. Et puis mon souvenir s'éteindrait comme un mort, un obus éclatant sur le front de l'armée.
Il réussit finalement à corrompre un officier de recrutement à Nice et peut s'engager en 15 dans l'artillerie, après avoir rencontré Louise de Coligny-Châtillon, dite Lou, à laquelle l'unira une passion orageuse qui nous a donné des chefs-d'œuvre de poésie et de correspondance. C'est l'époque de Casse d'Armon, de Lueur des tirs, du Guetteur mélancolique. Fin 1915, il rencontre dans un train Madeleine Pagès, en tombe amoureux, un mariage est envisagé. Mais les circonstances vont s'y opposer, Guillaume demande à passer dans l'infanterie. J'ai toujours été frappé qu'on le voit comme une sorte de victime, malheureux, rêveur, mutilé par hasard, ce qui est loin de la vérité. Apollinaire a voulu devenir officier. Il s'est porté volontaire pour faire le métier le plus difficile de la Grande Guerre, commander une compagnie d'infanterie en première ligne. Et ses soldats aimaient ce lieutenant plus vieux qu'à l'ordinaire, assez gros, et dont il n'arrivait pas à prononcer le nom. Il l'appelait Cointreau Whisky et semblait lui obéir par amitié. Apollinaire est blessé à la tête dans sa tranchée par un éclat d'obus, 2 jours après avoir reçu son décret de naturalisation française. Il est trépané au Val-de-Grâce et entame une longue convalescence pendant laquelle il cesse d'écrire à Madeleine. En octobre 1916, on publie « Le poète assassiné » et ses amis donnent un banquet en son honneur. Les jeunes gens qui vont se faire connaître dans le mouvement surréaliste, dont il a inventé le nom, se réclament de lui. En mai 1918, il épouse Jacqueline Kolb, la jolie rousse, qui apparaît dans de nombreux poèmes. Il a pour témoin Picasso et Ambroise Vollard. Très affaibli par les suites de sa blessure, il meurt le 9 novembre 1918 de la grippe espagnole, chez lui, sous les toits, au 202 boulevard Saint-Germain, là où André Breton, montant le voir, avait vu sur la porte un petit carton où était écrit « On est prié de ne pas emmerder le monde ». Picasso, Marinetti et peut-être Sandrard viennent se recueillir devant sa dépouille le 11 novembre, jour de l'armistice, pendant qu'au dehors, la foule, pensant non à lui évidemment, mais au Kaiser, crie « à mort Guillaume » et Picasso ne peut se retenir de pleurer. Son amie Louise Faure-Favier, la première femme journaliste professionnelle, par ailleurs pionnière de l'aviation, le revêt de la tenue Bleu Horizon et de la Croix de Guerre dont il était si fier. À nos yeux, seul Rimbaud est mort jeune. Mais à sa mort, il était bien plus vieux qu'Apollinaire, mort à 38 ans. Enfant, je t'ai donné ce que j'avais, travail. On l'en a au Père Lachaise. Nos pieds, avait-il écrit, ne se détache qu'en vain du sol qui contient les morts.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont le demain.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie toujours après la peine. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passe des éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente.
Les admirations littéraires de François Sureau.
On voit Apollinaire comme un poète, évidemment, mais c'était aussi un très grand prosateur. Et nous avons choisi un extrait de cette extraordinaire nouvelle qui s'appelle « Le passant de Prague ». Je sortis, dans l'intention de me promener tant qu'il ferait jour et de dîner ensuite dans une auberge bohémienne. Selon ma coutume, je me renseignais auprès d'un passant. Il se trouva que celui-ci reconnut aussi mon accent et me répondit en français « Je suis étranger comme vous, mais je connais assez Prague et ses beautés pour vous inviter à m'accompagner à travers la ville. » Je regardais l'homme. Il me parut sexagénaire, mais encore vert. Son vêtement apparent se composait d'un long manteau marron au col de loutre, d'un pantalon de drap noir assez étroit pour mouler un mollet qu'on devinait très musclé. Il était coiffé d'un large chapeau de feutre noir, comme en portent souvent les professeurs allemands. Son front était entouré d'une bandelette de soie noire. Ses chaussures de cuir mou, sans talons, étouffaient le bruit de ses pas égaux et lents comme ceux de quelqu'un qui, ayant un long chemin à parcourir, ne veut pas être fatigué en arrivant au but. Nous allions sans parler. Je détaillais le profil de mon compagnon. Le visage disparaissait presque dans la masse de la barbe, des moustaches et des cheveux démesurément longs mais soigneusement peignés, d'une blancheur d'hermine. On voyait pourtant les lèvres épaisses et violettes, le nez proéminent, poilu et courbe. Près d'un urinoir, l'inconnu s'arrêta et me dit « Pardon, monsieur. » Je le suivis. Je vis que son pantalon était à pont. Dès que nous fûmes sortis, « Regardez ces anciennes maisons, dit-il, elles conservent les signes qui les distinguaient avant qu'on ne les eût numérotées. Voici la maison à la Vierge, celle-là est à l'Aigle, et voilà la maison au Chevalier. » Au-dessus du portail de cette dernière, une date était gravée. Le vieillard l'a lue à haute voix. « 1721. Où étais-je donc ? Le 21 juin 1721, j'arrivais aux portes de Munich. Je l'écoutais effrayé, pensant avoir affaire à un fou. » Il me regarda et sourit, découvrant des gencives édentées. Il continua. J'arrivais aux portes de Munich, mais il paraît que ma figure ne plut pas aux soldats du poste, car ils m'interrogèrent de façon fort indiscrète. Mes réponses ne les satisfaisant pas, ils me garrottèrent et me menèrent devant les inquisiteurs. Bien que ma conscience fût nette, je n'étais pas fort rassuré. En chemin, la vue du Saint-Onufre, peint sur la maison qui porte actuellement le numéro 17 de la Marienplatz, m'assura que je vivrais au moins jusqu'au lendemain. Car cette image a la propriété d'accorder un jour de vie à qui la regarde. Il est vrai que pour moi, cette vue n'avait que peu d'utilité, je possède l'ironique certitude de survivre. Les juges me remirent en liberté et durant 8 jours, je me promenais dans Munich. « Vous étiez bien jeune alors » articulai-je pour dire quelque chose. « Bien jeune !» il répondit sur un ton d'indifférence. « Plus jeune de près de 2 siècles. Mais, sauf le costume, j'avais le même aspect qu'aujourd'hui. Ce n'était d'ailleurs pas ma première visite à Munich, j'y étais venu en 1334. » Et je me souviens toujours de 2 cortèges que j'y rencontrais. Le premier était composé d'archers promenant une ribaude qui faisait vaillamment tête aux huées populaires et portait royalement sa couronne de paille, diadème infamant, au sommet duquel tintinabulait une clochette. 2 longues tresses de paille descendaient jusqu'au jarret de la belle-fille. Ses mains enchaînées étaient croisées sur son ventre qui avançait vénérieusement selon la mode d'une époque où la beauté des femmes consistait à paraître enceinte. C'est d'ailleurs leur seule beauté. Le second cortège était celui d'un juif qu'on menait pendre. Avec la foule hurlante et saoule de bière, je marchais jusqu'aux potences. Le juif avait la tête prise dans un masque de fer peint en rouge. Ce masque dissimulait une figure diabolique, dont les oreilles avaient à vrai dire la forme des cornets, qui sont les oreilles d'âne dont on coiffe les méchants enfants. Le nez s'allongeait en pointe et, pesant, forçait le malheureux à marcher courbé. Une langue immense, plate, étroite et roulée, complétait ce jouet incommode. Nulle femme n'avait pitié du juif. Aucune n'eut l'idée d'essuyer sa face suante sous le masque, comme cet inconnu qui essuya le visage de Jésus avec le linge appelé Sainte Véronique. Ayant remarqué qu'un valet du cortège menait 2 gros chiens en laisse, la plèbe exigea qu'on les pendît aux côtés du juif. Je trouvais que c'était un double sacrilège, au point de vue de la religion de ces gens-là qui firent du juif une sorte de Christ navrant, et au point de vue de l'humanité, car je déteste les animaux, monsieur, et je ne supporte pas qu'on les traite en hommes. « Vous êtes israélite, n'est-ce pas ? » dis-je simplement. Il répondit, « Je suis le juif errant. Vous l'aviez sans doute déjà deviné. Je suis l'éternel juif. C'est ainsi que m'appellent les Allemands. Je suis Isaac Lakedem. »
Extrait du Passant de Prague.
Et maintenant, nous allons passer à la poésie en commençant, bien entendu, par le célèbre dromadaire qui nous réjouira tous.
Avec ses 4 dromadaires, Don Pedro d'Alfa Rubera courut le monde et l'admira. Il fit ce que je voudrais faire si j'avais 4 dromadaires. Le dromadaire, extrait du bestiaire.
Je vous ai raconté tout à l'heure qu'Apollinaire avait été détenu à la Santé à la suite du vol de la Joconde. C'est un vol qui avait été effectué par un Italien qui était soucieux de rendre la Joconde à l'Italie. Et les soupçons de la justice s'étaient portés sur Guillaume Apollinaire qui a été incarcéré quelque temps à la prison de la Santé. Et il en a tiré le poème que vous allez entendre maintenant et qui s'appelle « À la Santé ».
Avant d'entrer dans ma cellule, il a fallu me mettre nu. Et quelle voix sinistre ulule. Guillaume, qu'es-tu devenu ? Le Lazare entrant dans sa tombe, au lieu d'en sortir comme il fit. Adieu, adieu, chantante ronde. Ô mes années, ô jeune fille. Non, je ne me sens plus là moi-même. Je suis le 15 de la 11e. Le soleil filtre à travers les vitres. Ses rayons font sur mes vers l'épître et dansent sur le papier. J'écoute. Quelqu'un qui frappe du pied la voûte.
Et nous continuons à présent dans Alcool avec le poème Cygne. Je suis soumis au chef du cygne de l'automne. Partant, j'aime les fruits, je déteste les fleurs. Je regrette chacun des baisers que je donne. Tel un noyer gaulé, dit au vent ses douleurs. Mon automne éternel, ou ma saison mentale. Les mains des amantes d'antan jonchent ton sol. Une épouse me suit, c'est mon ombre fatale. Les colombes, ce soir, prennent leur dernier vol.
L'anémone et l'ancolie ont poussé dans le jardin où dort la mélancolie, entre l'amour et le dédain. Il y vient aussi nos ombres que la nuit dissipera. Le soleil qui les rend sombres, avec elles disparaîtra. Les déités des eaux vives laissent couler leurs cheveux. Passe ! Il faut que tu poursuives cette belle ombre que tu veux. Clotilde, extrait d'Alcool.
Nuit Rhénane. On verrait plein d'un vin trembleur comme une flamme. Écoutez la chanson lente d'un batelier qui raconte avoir vu sous la lune sept femmes tordre leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds. Debout, chantez plus haut en dansant une ronde que je n'entende plus le chant du batelier. Et mettez près de moi toutes les filles blondes, au regard immobile, aux nattes repliées. Le Rhin est ivre où les vignes se mirent. Tout l'or des nuits tombe en tremblant s'y refléter. La voix chante toujours à en râle mourir ces fées aux cheveux verts qui incantent l'été. Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire.
Les admirations littéraires de François Sureau sur France Inter.
Dans le crépuscule fané où plusieurs amours se bousculent, ton souvenir gît enchaîné, loin de nos ombres qui reculent. Ô main qu'enchaîne la mémoire, et brûlante comme un bûcher, où le dernier des phénix noirs, perfection, vient se jucher. La chaîne s'use maille à maille, ton souvenir riant de nous, s'enfuir l'entends-tu qui nous raille, et je retombe à tes genoux. Le soir tombe, et dans le jardin elle raconte des histoires à la nuit, qui, non sans dédain, répand leur chevelure noire. Petits enfants, vos ailes se sont envolées. Mais, Rose, toi qui te défends, perds tes odeurs inégalées, car voici l'heure du larcin de plumes, de fleurs et de tresses. Cueillez le jet d'eau du bassin dont les roses sont les maîtresses. Ô ma jeunesse abandonnée, comme une guirlande fanée, voici que s'en vient la saison et des dédains et du soupçon. Le paysage est fait de toile, il coule un faux fleuve de sang, et sous l'arbre fleuri d'étoiles, un clown est l'unique passant. Un froid rayon poudroie et joue sur les décors et sur ta joue, un coup de revolver, un cri, dans l'ombre un portrait assouri, la vitre du cadre est brisée, un air qu'on ne peut définir hésite entre son et pensée, entre avenir et souvenir. Ô ma jeunesse abandonnée comme une guirlande fanée, voici que s'en vient la saison des regrets et de la raison. Extrait de Vitam impendere amori.
Le poème suivant, moins connu que « Si je mourais là-bas, sur le front de l'armée », a été écrit pour Louise de Coligny-Châtillon, dite Lou, dont il était tombé amoureux, et avec lequel il a connu une brève passion, enfermée dans la villa Baratier à Nice, comme font les fruits d'or autour de Baratier, au moment de s'engager en 1915 dans l'artillerie. Ce poème s'appelle « C'est loup qu'on la nommait ». Il est des loups de toutes sortes. Je connais le plus inhumain. Mon cœur, que le diable l'emporte et qu'il le dépose à sa porte, n'est plus qu'un jouet dans sa main. Les loups, jadis, étaient fidèles, comme sont les petits toutous et les soldats, amants des belles, galamment en souvenir d'elles, ainsi que les loups étaient doux. Mais aujourd'hui, les temps sont pires. Les loups sont tigres devenus, et les soldats et les empires, les Césars devenus vampires, sont aussi cruels que Vénus. J'en ai pris mon parti, Rouvert, et monté sur mon grand cheval, je vais bientôt partir en guerre, sans pitié, chaste et l'œil sévère, comme ces guerriers qu'Épinal vendait, image populaire que Georgin gravait dans le bois. Où sont-ils, ces beaux militaires, soldats passés, où sont les guerres? Où sont les guerres d'autrefois?
Je suis rentré par la fêlure d'un monde qui m'a eu à l'usure, d'un vieux fado qui vient de loin, qui bat son plein, qui cherche quelqu'un. J'ai rencontré dans les coulisses le son, l'ivresse et les délices de ceux qui longtemps avant moi y avaient droit à cette vie-là. Tu sais, parfois ça sent l'arnaque, y en a qui se cassent, y en a qui râlent, y a ceux qui se taisent, qui rasent les murs. J'ai leurs empreintes sur mes serrures. Paris, t'es dur, Paris, je te jure, Paris, tu m'as périmé. Mais Paris, au moins, Paris, toujours, Paris, je te quitterai jamais. Paris, t'es louche, Paris, tu couches, mais Paris, je te promets que Paris, un jour, Paris, toujours, Paris, tu tiens. Laisser pour compte, pour retracer une seule rencontre, pour retenir à mon insu
Les admirations littéraires de François Sureau.
Et maintenant, voici le chef-d'œuvre de la poésie moderne, Zone. On est toujours un peu hésitant au moment de lire Zone, parce qu'on est dépassé par la puissance du chef-d'œuvre. Zone qui ressemble beaucoup à ce poème de Sandrart, écrit à New York dans les mêmes années. Ce sont deux poèmes qu'on a avantage à comparer. À la fin, tu es là de ce monde ancien. Bergère aux tours Eiffel, le troupeau des ponts belles ce matin. Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. Ici, même les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve. La religion est restée simple, comme les hangars de port aviation. Seul en Europe, tu n'es pas antique au christianisme. L'européen le plus moderne, c'est vous, Papidis. Et toi, que les fenêtres observent, la honte te retient d'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin. Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut, voilà la poésie ce matin. Et pour la prose, il y a les journaux, il y a les livraisons à 25 centimes, pleines d'aventures policières, portraits des grands hommes et mille titres divers. J'ai vu ce matin une jolie rue, dont j'ai oublié le nom, neuve et propre du soleil, elle était le clairon. Les directeurs, les ouvriers, les belles sténodactylographes, du lundi matin au samedi soir, quatre fois par jour, y passent. Le matin par trois fois, la sirène y gémit. Une cloche rageuse y aboie vers midi. Les inscriptions des enseignes et des murailles, les plaques, les avis, à la façon des perroquets criaillent. J'aime la grâce de cette rue industrielle, située à Paris, entre la rue Aumontierville et l'avenue des Ternes. Voilà la jeune rue, et tu n'es encore qu'un petit enfant. Ta mère ne t'habille que de bleu et de blanc, tu es très pieux. Et avec le plus ancien de tes camarades, René Dalyse, vous n'aimez rien tant que les pompes de l'église. Il est 9 heures, le gaz est baissé tout bleu. Vous sortez du dortoir en cachette. Vous priez toute la nuit dans la chapelle du collège. Tandis qu'éternelle et adorable profondeur améthyste tourne à jamais la flamboyante gloire du Christ. C'est le beau lys que tous nous cultivons. C'est la torche aux cheveux roux que n'éteint pas le vent. C'est le fils pâle et vermeil de la douloureuse mère. C'est l'arbre toujours touffu de toutes les prières. C'est la double potence de l'honneur et de l'éternité. C'est l'étoile à 6 branches. C'est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche. C'est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs. Il détient le record du monde pour la hauteur. Pupille, Christ de l'œil. 20e pupille des siècles. Il sait y faire et changer en oiseau ce siècle comme Jésus monte dans l'air. Les diables dans les abîmes lèvent la tête pour le regarder. Ils disent qu'ils imitent Simon, mage en Judée. Il crie, s'il sait voler, qu'on l'appelle voleur. Les anges voltigent autour du joli voltigeur. Icare, Enoch, Élie, Apollonius de Tyane flottent autour du premier aéroplane. Ils s'écartent parfois pour laisser passer ce que transporte la Sainte Eucharistie. Ces prêtres qui montent éternellement élevant l'hostie. L'avion se pose enfin sans refermer les ailes. Le ciel s'emplit alors de milliers d'hirondelles. À tire-d'aile viennent les corbeaux, les faucons, les hiboux. D'Afrique arrivent les ibis, les flamands, les marabouts. L'oiseau roque, célébré par les conteurs et les poètes, plane, tenant dans les serres le crâne d'Adam, la première tête. L'aigle fond de l'horizon en poussant un grand cri. Et d'Amérique vient le petit colibri. De Chine sont venus les pays longs et souples, qui n'ont qu'une seule aile et qui volent par couple. Puis voici la colombe, esprit immaculé, qu'escorte l'oiseau lyre et le paon ocellé. Le phénix, ce bûcher qui soi-même s'engendre, un instant voit le tout de son ardente cendre. Les sirènes, laissant les périlleux détroits, arrivent en chantant bêlement toutes trois. Et tous, aigle, phénix et pie de la Chine, fraternisent avec la volante machine. Maintenant, tu marches dans Paris tout seul, parmi la foule des troupeaux d'autobus mugissant près de toi roule. L'angoisse de l'amour te serre le gosier, comme si tu ne devais plus jamais être aimé. Si tu vivais dans l'ancien temps, tu entrerais dans un monastère. Vous avez honte quand vous vous surprenez à dire une prière. Tu te moques de toi et comme le feu de l'enfer, ton rire pétille. Les étincelles de ton rire dorent le fond de ta vie. C'est un tableau, pendu dans un sombre musée. Et quelquefois, tu vas le regarder de près. Aujourd'hui, tu marches dans Paris. Les femmes sont ensanglantées. C'était, et je voudrais ne pas m'en souvenir, c'était au déclin de la beauté. Entourée de flammes ferventes, Notre-Dame m'a regardé à Chartres. Le sang de votre Sacré-Cœur m'a inondé à Montmartre. Je suis malade, d'ouïr les paroles bienheureuses. L'amour dont je souffre est une maladie honteuse et l'image qui te possède te fait survivre dans l'insomnie et dans l'angoisse. C'est toujours près de toi, cette image qui passe. Maintenant, tu es au bord de la Méditerranée, sous les citronniers qui sont en fleurs toute l'année. Avec tes amis, tu te promènes en barque. L'un est Nissard, il y a un Mentonasque et deux Turbiasques. Nous regardons avec effroi les poulpes des profondeurs et parmi les algues nagent les poissons, image du Sauveur. Tu es dans le jardin d'une auberge, aux environs de Prague. Tu te sens tout heureux, une rose est sur la table et tu observes au lieu d'écrire ton conte en prose l'acétoine qui dort dans le cœur de la rose. Épouvanté, tu te vois dessiner dans les agates de Saint-Vite. Tu étais triste à mourir le jour où tu t'y vis. Tu ressembles au Lazare affolé par le jour. Les aiguilles de l'horloge du quartier juif vont à rebours et tu recules aussi dans ta vie lentement en montant au Drachin et le soir en écoutant dans les tavernes chanter des chansons tchèques. Te voici à Marseille au milieu des pastèques. Te voici à Coblence à l'hôtel du Géant. Te voici à Rome, assis sous un néflier du Japon. Te voici à Amsterdam avec une jeune fille que tu trouves belle et qui est laide. Elle doit se marier avec un étudiant de Leyde. On y loue des chambres en latin, cubicula locanda. Je m'en souviens, j'y ai passé 3 jours, et autant à Gouda. Tu es à Paris, chez le juge d'instruction. Comme un criminel, on te met en état d'arrestation. Tu as fait de douloureux et de joyeux voyages. Avant de t'apercevoir du mensonge et de l'âge, tu as souffert de l'amour à 20 et à 30 ans. J'ai vécu comme un fou et j'ai perdu mon temps. Tu n'oses plus regarder tes mains et à tout moment je voudrais sangloter sur toi, sur celle que j'aime, sur tout ce qui t'a épouvanté. Tu regardes, les yeux pleins de larmes, ces pauvres émigrants. Ils croient en Dieu, ils prient, les femmes allaitent des enfants. Ils emplissent de leur odeur le hall de la gare Saint-Lazare. Ils ont foi dans leur étoile, comme les rois mages. Ils espèrent gagner de l'argent dans l'Argentine et revenir dans leur pays après avoir fait fortune. Une famille transporte un édredon rouge comme vous transportez votre cœur. Cet édredon et nos rêves sont aussi réels. Quelques-uns de ces émigrants restent ici et se logent rue des Rosiers ou rue des Écouffes dans des bouges. Je les ai vus souvent le soir, ils prennent l'air dans la rue et se déplacent rarement comme les pièces aux échecs. Il y a surtout des Juifs. Leurs femmes portent perruques, elles restent assises exsangues au fond des boutiques. Tu es debout devant le zinc d'un bar crapuleux. Tu prends un café à 2 sous parmi les malheureux. Tu es la nuit dans un grand restaurant. Ces femmes ne sont pas méchantes. Elles ont des soucis. Cependant, toutes, même la plus laide, a fait souffrir son amant. Elle est la fille d'un sergent de ville de Jersey. Ses mains que je n'avais pas vues sont dures et gercées. J'ai une pitié immense pour les coutures de son ventre. J'humilie maintenant à une pauvre fille au rire horrible ma bouche. Tu es seule. Le matin va venir, les laitiers font teinter leurs bidons dans les rues. La nuit s'éloigne, ainsi qu'une belle métive. C'est Ferdine la fausse ou Léa l'attentive. Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie que tu bois comme une eau de vie. Tu marches vers Auteuil. Tu veux aller chez toi à pied. Dormir parmi tes fétiches d'Océanie et de Guinée, ils sont des Christs d'une autre forme et d'une autre croyance. Ce sont les Christs inférieurs, des obscures espérances. Adieu, adieu, soleil, cou coupé.
Zone, extrait d'alcool.
Le moment est venu, hélas, de nous quitter sur ces paroles. Et Victoire et moi, nous allons vous dire adieu en empruntant une dernière fois la voix de notre cher ami.
J'ai cueilli ce brin de bruyère. L'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre. Odeur du temps, brin de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends.
C'était « Adieu » tiré d'Alcool de Guillaume Apollinaire.
Cette émission a été préparée par Perrine Malinge, à la prise de son Nicolas Delmas, au mixage Florian Dittre. Elle a été réalisée par Stéphane Ronxin.
La semaine prochaine, nous vous lirons plusieurs œuvres de Blaise Cendrars.